nous exerçons un métier de l'humain. Et aujourd'hui, tout ce qui relève de l'ergonomie du travail ou de l'anthropologie du travail le rappelle fortement. Et nous exerçons un métier de parole. Autrement dit, quand l'enseignant rentre dans la classe, de 9h, enfin 8h, hein, à 17h, enfin 18h, il parle. D'accord ? Il parle, il fait parler, il apprend à parler. Il n'y aurait pas, vous voyez, à isoler, à décaler la question de l'oral sur des points particuliers, de domaines particuliers. S'exprimer, communiquer, dialoguer, l'activité enseignante est une activité langagière. Et du coup, en tant qu'activité langagière, qu'est-ce qu'elle produit sur les élèves ? Ma vitesse d'élocution, ma façon de baisser, de lever la voix, la prosodie, les mots que j'utilise, la volonté lorsque je veux gronder un élève, par exemple, de changer de registre, d'accord ? Et au lieu de lui dire « t'es insupportable, tu m'énerves, tais-toi, mais tu m'insupportes », là je suis sûr qu'il ne va pas me comprendre, mais du coup il va sentir qu'il se passe quelque chose qui n'est pas très très bon. Vous voyez, cette idée de jouer sur les registres, ou au contraire de dire « bon, maintenant, stop », c'est-à-dire vraiment d'afficher un déni de discussion parce que c'est plus possible, participe de la relation que vous installez avec l'oral. Langage, cognition, apprentissage, je l'ai dit. Et du coup, pour nous, et Patrick, moi j'ai été sensible à ce qu'il a proposé en introduction, ces savoirs langagiers professionnels, ben, il faut les faire circuler en formation en tant que tel. Hein, la question que je poserai tout à l'heure, c'est par exemple, faut-il enseigner la reformulation à des M2 ? D'accord ? La reformulation, c'est un geste professionnel langagier lourd, très lourd. Ça peut aller jusqu'à 75-80% d'une séance. Tout cycle confondu, toute discipline confondue. D'accord ? À partir de là, comment se fait-il ? Alors qu'il existe des thèses et vraiment un background théorique extrêmement puissant sur cette question, comment se fait-il que nous hésitions, en formation initiale et continue, à faire de la reformulation un des enjeux de l'enseignement de l'oral. Alors je dis, hésitons-nous, hein, Claudine Garcia de Banque l'a proposé X fois, elle a travaillé avec, sur Toulouse, hein, Grandati, nous à Montpellier, on est sur ces questions. Mais voyez bien, pour autant, ça ne devient pas un contenu de formation ciblé. Parce que de quoi parle-t-on finalement, hein? Claudine insiste dans le fameux numéro, l'oral en question, sur l'idée qu'il vaudrait mieux employer le pluriel pour intégrer des pratiques qui sont différentes, pour intégrer des genres différents. Il est bien évident qu'au moment de la comptine, vous ne manipulez pas l'oral comme vous voulez le manipuler dans un moment d'observation, par exemple, d'un escargot en train de se déplacer sur une feuille de papier, et puis un peu plus loin, dans la lecture d'un album, puisqu'il a été question du langage qui accompagne le rappel de récit. Donc, elle préfère qu'on dise, et c'est intéressant de le noter, non pas un oral, mais des oraux. Ensuite, les mots ici qui sont là... On a des pratiques, on a des conduites, on a des productions, on a des situations langagières. Ces mots ne se recouvrent pas complètement. Hein, quand on parle de pratique, c'est ce qui se fait. Quand on parle de conduite, c'est la manière dont on le fait. Par exemple, une conduite de questionnement, une conduite définitoire. Vous voulez, à un moment donné, définir un mot avec les élèves. Vous voulez, au contraire, rester dans le questionnement. On sait très bien que les questions, qu'elles soient ouvertes ou fermées, vont agir sur la possibilité du laisser-parler des élèves. Qu'une question trop ouverte peut avoir des effets aussi négatifs qu'une question trop fermée. Qu'il n'est jamais évident qu'une question, quelle que soit sa modalité, produise plus ou moins du langage. Hein, ce n'est jamais aussi simple que ça. Mais le plus important, ce sont effectivement les situations, c'est-à-dire les entours des conduites. Hein, si j'ai telle conduite, c'est parce qu'à tel moment, je me rends compte que dans une situation de lecture d'album, tel mot que je ne pensais pas poser problème, pose problème. Et demande une levée d'implicite ou demande une appréciation en termes de définition. Donc du coup, le poids de l'oral dans l'activité de l'enseignant, c'est mesurer tout ce qui relève de l'eau. Alors ça, c'est très ancien, hein, c'est dans le bouquin de chez Attier, Sylvie Plane et Claudine Garcia de Banque, l'enseignement de l'oral. Hein, C'est, ça reste encore en formation initiale l'ouvrage, à mon avis, de référence. Travailler donc, c'est un moyen de communication, d'accord ? C'est un outil d'enseignement et d'apprentissage, et puis c'est un objet d'étude. Un objet d'étude pour nous par rapport à ce qu'ils produisent, un objet d'étude pour eux, pour les amener progressivement à comprendre ce qui se joue. Je reviens à l'exemple d'expédier, expédition. La maîtresse, elle a expédié le problème, et vous voyez que je joue volontairement sur les mots, en ne s'arrêtant pas. Le bonhomme dit, le petit garçon il dit expédition, la maîtresse répond oui, tu as raison, donc l'expéditeur c'est celui qui envoie la lettre. Et vous voyez, elle n'a pas pris le temps de donner au groupe la possibilité de comprendre ce qui s'est joué dans la construction du mot expédition. Elle a peut-être et sans doute raison. Hein. Il est hors de question de dire bonne ou mauvaise pratique. Il s'agit de voir en situation ce qui est rentable, opérationnel. Parce qu'elle elle s'est peut-être dit à très grande vitesse ou sans y prendre vraiment conscience que de toute façon son groupe tel qu'il est constitué ne pouvait pas pour l'heure et à ce moment-là comprendre les enjeux de la construction morphologique entre expédition, expéditeur et expédié. On est d'accord avec ça, c'est-à-dire que la régulation moyen outil objet, elle se fait dans la situation. Je décide d'en faire un objet ou pas. Ou je continue. Et si j'en fais un objet, je prends des risques, je le sais, et donc je m'engage ou pas dans cette prise de risque. On est OK avec ça ? Donc les enjeux qui sont à la fois les compétences, c'est autour de, bien sûr, parler, prendre la parole et apprendre la parole. Vous ne pouvez pas me dire que les enfants de maternelle ne parlent pas. D'accord ? On aurait même tendance à dire qu'ils parlent trop, ou plus exactement, qu'ils ne parlent pas quand il faudrait qu'ils parlent, de la manière dont l'enseignant souhaite qu'ils le fassent. Vous voyez bien, entre une production langagière des élèves de l'école maternelle et puis une production, on va dire, ciblée, organisée, structurée, il y aurait beaucoup d'écarts à mesurer. Ils prennent la parole de manière relativement intempestive ou au contraire particulièrement bien ajustée. Hein, pensez à ces moments toujours assez impressionnants, de doigts pointés, avec des mises en apnée. Hein, on se coupe la respiration, on tend le doigt à l'extrême vers l'enseignant, et on veut absolument parler, et au moment où vous dites « allez, vas-y », plus rien. Plus rien, parce que toute l'énergie déployée à attirer l'attention se fait au détriment de la construction de l'énoncé. Hein, je rappelle souvent ce fait, qui est un vécu quasi permanent des classes de maternelle, parce que c'est important. Du coup, après, le troisième étage, c'est-à-dire s'arrêter pour dire « mais finalement, qu'est-ce que nous sommes en train de dire ? Que sont ces mots que nous sommes en train d'utiliser ? Comment on peut... Ah, » hein. J'avais un joli exemple du mot « proie » et du mot « gibier ». Alors la maîtresse interroge, c'est l'automne, la chasse, hein, là-bas dans l'Hérault, et donc elle leur dit « bon, alors le chasseur, quand il a tué un lapin ou un faisan, bon, il le met dans sa gibecière ». Bon, et elle cale le mot, d'accord ? Personne ne branche. Et là, on peut se dire que, allez, socioculturellement, ils sont OK, ils savent à peu près ce que c'est. Il y a un petit bonhomme qui dit gibier, c'est-à-dire qu'un peu comme tout à l'heure pour expédier. C'est-à-dire, il va chercher dans le gibecière, gibier. Mais il y en a surtout un autre dans la classe, un autre garçon qui dit, il met ses proies. Et là, la maîtresse, elle change de couleur, elle pâlit. Parce qu'elle se dit, oulala, comment on va faire pour à la fois reposer gibecière et gibier et poser la question du mot proie ? Parce qu'un chasseur, la relation, ce n'est pas les proies, c'est les animaux, il y a de l'humain, il y a de l'animal, comment on va négocier ? Et là aussi, elle expédie. Vous voyez ? Mais peut-être qu'on a entendu les mots, et mon idée, ça serait vous voyez, d'être suffisamment dans une sorte d'enregistrement permanent de ce qui se dit pour pouvoir après en tirer bénéfice. Ça, c'est des réflexes, attention, de prof de lettres aussi. Hein. J'ai une formation, j'ai un marquage didactique qui fait que j'entends ça. J'entends, je l'entends tout de suite. C'est presque un réflexe, comme un garagiste devant. Hein, vous allumez votre voiture, vous lui dites, il y a un bruit, et lui va vous dire, il est à peu près là, je pense que c'est ça. Bon, je dis pas que je suis... mais c'est vraiment, sans doute, une compétence. Et c'est cette compétence-là qu'il faut aider peut-être les collègues à développer. Deuxième repère fort, donc, Vous voyez, sur le développement langagier et l'insécurité linguistique, les travaux d'Emmanuel Canu, qui intègrent la perspective développementale et cognitive, que je n'intègre pas trop, ils sont, de ce point de vue-là, précieux à retrouver. Alors il y a des filiations, hein, Lantin, Florin, et puis aujourd'hui, les collègues qui continuent et qui même vont beaucoup plus loin sur ces questions. Bon, le bouquin de Froment sur favoriser la parole des petits, il est toujours d'actualité. Vous voyez, tout ce qu'on nous repropose sur le jeu à l'école maternelle, à condition de bien entendre ce qui se cache, bien sûr, derrière le mot, hein, on ne va pas refaire l'histoire, mais on voit bien que le jeu favorise la parole des petits. D'accord ? Que c'est sans doute un des moments très importants d'écoute, d'enregistrement, un peu comme la piste graphique. De la même manière que vous allez installer une piste graphique, c'est-à-dire une nappe de papier sur deux tables, pour voir comment en un mois, en trois mois, une classe de moyens investit et petit à petit quitte le tracé et vient vers l'écrit, sans que vous leur imposez, on pourrait considérer qu'il y a des moments qui sont des pistes, on va dire, des pistes d'oralisation. On parle, et petit à petit, on voit émerger des problèmes intéressants. Troisième repère, la pédagogie de la production et de l'écoute. Parce que ce qu'il y a de bien dans l'approche de Perrault, c'est finalement de dire si je suis dans la pédagogie de l'écoute, c'est parce que surtout je suis dans de la pédagogie de la production. C'est ça, c'est-à-dire faire parler le plus possible les élèves dans des conditions d'écoute pour les copains et pour l'enseignant. Et enfin, la question des normes, mais voyez comme quelque chose qui viendrait après. C'est-à-dire j'entends la normalité des énoncés des élèves au fur et à mesure que j'avance avec eux. De la même manière qu'on leur fait découvrir des règles orthographiques, il y aurait peut-être à découvrir avec eux des pratiques langagières. Donc ce qu'on appelle les points de vigilance, et j'aime bien dans le programme de l'école maternelle cette notion de point de vigilance. Point de vigilance. Donc le fait de dire le renard, il veut manger la poule, ne constitue bien sûr en rien, mais même pas une maladresse. C'est un trait d'oralité. En tant que trait d'oralité, c'est une référence langagière puissante. Il ne s'agit pas de dire, non, il ne faut pas dire comme ça, il faut dire le renard veut manger la poule. Au contraire. Pourquoi ? Parce que vous retardez d'autant la prise en compte ensuite du découpage en fait, entre le nom et le pronom. C'est-à-dire leur capacité ensuite à comprendre qu'on peut remplacer renard par il. Et donc, le renard veut manger la poule, il s'approche doucement, d'accord ? Il l'attrape. Ça, c'est ce qu'on arrivera à faire quand on aura posé les fondements du rapport à l'écrit. Mais d'abord, attiens à l'oral, c'est vrai, les petits, mais les grands aussi. Moi aussi, je vous le dis, bon, les enfants, vous allez. Et pas les enfants vont. Pourquoi ? Parce que là, il y a un système énonciatif différent. D'accord ? Hein ? Je dis les enfants, je m'adresse à vous, et hop, je reprends derrière les comme pronoms qui vous concernent, et hop. J'avance sur l'énoncé. Donc on est bien sûr, et ça c'est mon idée force de la matinée, sur l'impact de nos pratiques sur les apprentissages langagiers des élèves. Alors, comment est-ce que je pourrais le montrer ? Je vais faire un tout petit détour, on va dire, théorique, tout de même. Hein. Formateur, il faut jouer ce rôle-là aussi. Si l'activité scolaire... L'activité enseignante est une activité langagière, elle s'inscrit surtout dans un discours. Nous tenons avec les élèves discours particulier, le discours des profs, le discours scolaire. D'accord ? Nous sommes les seuls à faire ça. Hein, vous le savez, je le répète assez souvent, le prof, c'est quelqu'un qui pose des questions dont il connaît la réponse. D'accord ? Et dont il attend que les élèves donnent la réponse qu'ils souhaitent. D'accord ? Donc tout est terriblement truqué, faussé, par rapport aux interactions normales, ordinaires, interpersonnelles. Donc le discours d'apprentissage, le discours d'enseignement, est un discours qui est plus ou moins bien entendu, compris par les élèves, et surtout par les petits, et surtout par des petits qui vivent dans des milieux où précisément ils ne sont jamais sollicités selon cette modalité. D'accord ? Parce qu'un parent efficace, c'est un parent qui, précisément, comme le prof, sait poser à son enfant des questions dont il connaît la réponse. Et donc, il joue le prof. Il joue au prof. Mais on sait bien qu'il y a des familles où ce décalage ne se fait pas. Donc quand Véronique Boiron, elle attire notre attention sur justement ces espaces que sont l'espace de la maison, l'espace de la famille et les espaces sociaux, hein, puisqu'il faut le regarder extérieur, intérieur, et puis après dans la verticalité des milieux favorisés ou moins défavorisés, le plus important, ça va être surtout d'aller voir quel est le niveau de sollicitation langagière dans des espaces autres que l'école. Parce qu'à partir du moment où il y a sollicitation, j'allais dire, on peut s'entendre relativement vite, même quand il y a insécurité linguistique. C'est-à-dire moins de vocabulaire, moins d'avouement ou d'appétence hein, vers le langage. Donc, un discours, ce discours, il est étroitement lié à des situations d'enseignement. C'est-à-dire que chaque situation d'enseignement, d'apprentissage, génère une partie du discours enseignant. D'accord ? Et surtout au premier degré, on peut le comprendre assez facilement, parce que la polyvalence de l'enseignant du premier degré devrait permettre de s'apercevoir que tout au long de la journée, il parle, fait parler à peu près de la même manière. Or, on voit bien qu'il y a un effet discipline. Peut-être pas à l'école maternelle, et encore, il faudrait le mesurer comme tel. C'est-à-dire, quand vous changez de domaine d'apprentissage, est-ce que vous changez aussi de façon de parler et de faire parler ? Mais à l'évidence, ensuite, cycle 2, cycle 3, les choses deviennent marquées. Et quand on prend après les collègues de collège et à plus forte raison de lycée, on voit bien des marquages linguistiques encore plus forts. Donc, le discours scolaire, il est affecté par les situations. Selon que la situation est plus ou moins en situation de problème, avec une part plus ou moins grande de dévolution hein, ou d'activité donnée à l'élève, on a des changements significatifs. Puis on a la fameuse question et des conduites et des pratiques. D'accord ? La semaine dernière, la maîtresse, responsable document, petit gamin, il se lève, il part. Il va tout porter. D'accord ? Elle dit deux mots, responsable document. Ces deux mots génèrent immédiatement l'action de l'élève de grande section qui est allé prendre le paquet de c'était un plan de travail et qui distribue le plan de travail. Et après, elle me dit, tu sais, c'est la première fois que je lui donne le paquet des plans de travail et sur lequel j'ai inscrit le prénom de chacun de ses copains. Donc, d'habitude, je lui demande simplement de distribuer les feuilles parce qu'il n'y a pas de problème, c'est une feuille à chaque élève. Sauf que là, je vais voir s'il comprend qu'il ne peut pas déposer n'importe quelle feuille parce qu'il y a les prénoms. Et effectivement, le petit bonhomme en question, il regarde le paquet de feuilles, il regarde la première feuille et voit un truc qui ne va pas. Et alors il s'arrête et lui dit à maîtresse, c'est le prénom. Oui, oui. Et hop, il y va. Donc il a eu droit à responsable document et à oui, oui. D'accord ? Donc vous voyez, cette construction langagière à minima de l'enseignant a activé tout de même au plan cognitif et au plan dynamique, à activer le... Bon, alors, derrière, quand il faut expliquer à des M2 comment est-ce qu'on en arrive là, faut-il en arriver là ? Faut-il être à ce point dans une sorte de, vous voyez, d'hypercadrage distribuant des métiers à la moitié des élèves de la classe ? Là, on est sur des objets vraiment de formation, parce que la conduite langagière, hein, elle agit directement sur... la conduite, pour le coup, physique et cognitive de l'élève. Je descends d'un cran. La question la plus sensible, pour moi, c'est celle des interactions. Interactions verbales, qui vont décider ou pas du volume langagier accordé. Et dessous, on va avoir des gestes d'enseignant et en miroir, des gestes d'études d'élèves. Je leur parle d'une certaine manière, à propos d'un certain contenu, ou d'une certaine procédure, et eux, ce qu'ils me renvoient, c'est une façon d'y répondre, de réagir, et donc de participer. Et vous voyez, quand malheureusement Dominique Bucheton est parti, on commençait à réfléchir aux gestes d'études, et ce travail-là, il est encore à faire. C'est-à-dire, on voit à peu près où sont les grands gestes du côté des enseignants. Maintenant, quels sont les gestes d'études des élèves par rapport à ce que propose l'enseignant ? Là, il y a encore, à mon avis, beaucoup de recherches à faire. Et la vidéo, mais aussi les productions, mais aussi les autoconfrontations d'enseignants et d'élèves devraient nous permettre petit à petit d'avancer. Autre diapo un peu synthétique. Finalement, qu'est-ce que c'est que le langage et donc l'oral dans la classe? Et je reprends un travail qu'avait fait en partie Jean-Charles Chabanne, qui était aussi avec nous à Montpellier, qui est maintenant pour l'essentiel ici comme enseignant. Bon, le langage est l'organisateur de l'activité. Maîtresse, on n'a pas fait la météo. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que les enfants qui vont proposer ce type d'énoncé au petit matin, là, parce qu'ils voient bien que dans les rituels, il y a quelque chose qui manque, on est là. Donc l'enseignant, lui, l'utilise pour mettre en place, et les élèves, eux, l'enregistrent et peuvent s'en servir parce qu'il y a bien organisation de l'activité. On est sur une dimension, on va dire, pédagogique au sens large. Deuxième point, plus important peut-être, le langage, c'est une des manifestations du savoir dans la classe. Un état du savoir. Fragmentaire, tâtonnant, premier, chevalard, hein, le didacticien des maths, a travaillé sur ces questions. Manifestation du savoir, version du savoir, en train de se construire. Et on verra comment la reformulation participe pleinement à cette dimension. Et là, on est sur du cognitif, de l'épistémologique, du didactique, quel que soit le domaine. C'est pour ça qu'il ne faut pas, mettre par exemple, quand on veut éviter, et c'est un travail que fait Elisabeth Bottier, qu'elle a fait avec Roland Guagou sur la secondarisation, puisque Patrick a évoqué le terme, il faut pouvoir, par exemple, parler et parler sûr, c'est-à-dire parler en même temps, comprendre comment on parle, ce qui s'est passé quand on a parlé, pourquoi on a parlé de telle et telle manière. Bon, c'est un peu ça la question ici, hein, c'est-à-dire... Un état du savoir, c'est dans la production. Un deuxième état du savoir, c'est le contrôle de cette production, la capacité d'y revenir. Et on intègre là la compréhension et une dimension déjà en partie réflexive. Le langage reste un médiateur social et psychologique puissant, puisqu'il faut à tout moment encourager, valoriser, remettre à sa place, dans le même temps, avec cette jolie anecdote, aujourd'hui, je vais vous lire un nouvel album de Claude Ponti. Marina, assis-toi bien. Bon. Marina est assise devant la maîtresse. Et elle répond à la maîtresse, assez rigolo, maîtresse. Quand tu as dit un nouvel album, j'ai cru que le titre, c'était Marina, assis-toi bien. Perfidie féminine extraordinaire. Hein, mais extraordinaire réaction de l'élève qui comprend que pour déjouer le piège de la maîtresse, elle n'est pas contente, elle est capable de traiter l'énoncé à deux niveaux et de bien voir que la collusion entre le pédagogique, pour faire simple, et puis l'entrée dans le domaine d'apprentissage, lecture-compréhension d'un texte, peut lui donner la possibilité de se sortir d'embarras. Sourire de la maîtresse qui lui dit « Bon, Marina, allez, on y va ». Donc, hyper connivence dialogique, hein. Les copains autour, ils n'ont rien compris, hein. Ils n'ont pas vu ce qui se passait. D'accord ? Bien. Donc, médiation sociale et psychologique très fortement installée dans cette anecdote, on est sur du relationnel. Et le relationnel, il est permanent. Vous êtes à côté de l'élève en train de l'aider à reprendre ou à avancer dans l'écriture de mercredi, d'accord ? Parce qu'il coince sur, bien sûr, la deuxième partie de la première syllabe. Le « me », ça va à peu près, mais le « r », ça devient d'un seul coup compliqué. Voilà, vous le touchez, vous êtes en contact avec lui, donc vous parlez, on a bien une dimension relationnelle qui agit. Et puis pour nous, en tout cas pour le laboratoire, l'idée qu'on fait du langage une fenêtre sur l'activité de l'acteur. Soit l'acteur élève, soit l'acteur enseignant, si possible les deux, en jouant sur les interactions. Et là, on est sur une dimension qui est cognitive, réflexive, mais surtout professionnelle et professionnalisante. C'est-à-dire qu'on fait le pari que le langage est un observable. Vous voyez, avant de se poser les questions des observables langagiers, on part de l'idée que le langage est un observable de l'activité. En évitant, comme le dit Elisabeth, de tomber dans le piège ou dans l'illusion de la transparence. Hein, les mots qui sont utilisés par l'enseignant comme par l'élève ou par le formateur, ne sont pas aussi transparents que nous aimerions qu'ils le soient. et la nécessité de reformuler trois fois, quatre fois une consigne, de la reformuler au grand groupe pour ensuite aller la reformuler dans un atelier pour enfin la reformuler auprès d'un élève, montre que la route est longue et que ces différents niveaux d'intervention sont, pour certains élèves, nécessaires. Ils doivent entendre, d'accord, dans la scène, on va dire, globale, collective, une formulation. Ils doivent la réentendre au sein de l'atelier. Ils doivent la réentendre au plan de, on va dire, de l'individualisation de la tâche, de sa personnalisation. C'est une contrainte, mais c'est une conquête pour eux que de se débarrasser des niveaux. D'accord ? De pouvoir dire, bon, voilà, j'ai entendu, ok, j'ai plus besoin. Ou alors... Ça serait bien, maîtresse, que tu viennes m'expliquer un peu. C'est du Brunner pur et dur, hein, contrôle de la frustration. Hein, c'est-à-dire que c'est une des figures de l'étayage. L'enfant, et surtout le petit bonhomme, ne voulant pas se mettre dans la tâche tant que la maîtresse n'est pas venue vraiment au plus près lui dire « Allez, vas-y. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Allez, tiens, je t'aide un petit peu. » Et hop, ça démarre. Et vous voyez que là les fonctions se sédimentent. Hein. C'est-à-dire que je viens au niveau psychologique, je suis dans la réassurance, et à partir de là, j'installe le savoir, la possibilité de se mettre dans le savoir, dans le travail, dans la tâche. Dernier point, donc, c'est ça l'idée d'observable spécifique. En fait, il faut que je le pointe, il faut que j'en fasse quelque chose. Les passés simples mutilés, des petits, tout d'un coup ils prenant, d'accord, sont extrêmement précieux. C'est eux qui devraient nous indiquer comment enseigner le passé simple au CM2. Et pas comme on le fait, c'est-à-dire oublier qu'ils ont eu ce qu'on appelle la musique du passé simple, parce qu'ils l'ont parfaitement intégré. Il y a des A, il y a des I, il y a des U. Et puis ils l'ont perdu. Et quand on leur permet de la retrouver, en fait, on ne leur permet pas. On leur dit, voilà, morphologie du passé simple, boum. Et ça tombe sous l'étiquette conjugaison, de manière décloisonnée, et quelque part ça dysfonctionne. Alors qu'on avait là un terreau intéressant, mais comment se fait-il que... Voilà. Qu'est-ce qui se joue là ? D'où ça vient ? Ça vient bien sûr d'une mémorisation, ça vient d'une dimension mimétique du langage des textes lus au passé simple, ce qui permet d'ailleurs toujours de dire, et maintenant on a compris, qu'effectivement... Le langage, ce n'est pas uniquement le rappel de récits, la narration et les albums de littérature de jeunesse. Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien que le balancier, qui était peut-être un peu trop parti de ce côté-là, a tout intérêt à revenir sur des écrits fonctionnels et pas simplement littéraires, tout type d'écrits nécessitant une approche beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus ouverte. Voilà ce qui se passe au petit matin. Pratiquement les premiers mots au moment du regroupement. Bonjour, bonjour les enfants. Brouhaha, les enfants répètent « bonjour les enfants ». Vous voyez la perfidie, hein. Un enfant se tient l'oreille comme la maîtresse. Bon, ce qui veut dire que le geste premier de la maîtresse a été, voilà, de signifier par les langages, et donc par le langage du corps, qu'il y a trop de bruit. Et donc elle repart. « Bonjour, bonjour ». Alors, on rappelle les règles un petit peu, pour être sûr qu'on ne parle pas tous ensemble. Joséphine, on regarde par ici. Ah, c'est pas Marina, c'est Joséphine, mais là, il y a une rupture claire, et donc Joséphine, elle bouge pas. Bien. Qu'est-ce qu'on peut constater ? Il y a des faits de langue. Bonjour, alors, un petit peu, pour être sûr. Sur, j'allais dire, un échiquier lexical qui est du plus évident, parce que pratique routinisée au maximum, à quelque chose qui peut être beaucoup plus compliqué, comprendre un infinitif prépositionnel avec une formule pour être sûr qu'on a bien, difficile. Hein ? Moyen grand. On a des actes de parole, c'est-à-dire je parle et normalement ce que je dis doit faire agir ou réagir. On rappelle les règles, on regarde par ici. On a des ressources orientées pour l'action. Voilà ce que fait la maîtresse là immédiatement. Elle est dans la phase brunérienne d'enrôlement. Il s'agit d'enrôler. Donc j'enrôle avec des mots et j'attends que ces mots produisent quelque chose. On rappelle les règles un petit peu pour être sûr qu'on ne parle pas tous ensemble. Quand une station parle, les autres se taisent. Vous voyez comment ça pourrait. Et on voit bien l'infinie possibilité qui est offerte à la maîtresse pour dire ça. Entre « chut, taisez-vous, bon, maintenant, c'est le regroupement, je ne veux plus entendre un mot », et puis, on rappelle les règles un petit peu pour être sûr qu'on ne parle pas tous ensemble. Qu'est-ce qui décide au petit matin pour chacun de nos collègues d'agir de telle ou telle manière au plan langagé et de sélectionner dans les ressources possibles telle ou telle pratique? Est-ce que ce sont des gestes professionnels? Et de quels gestes professionnels s'agit-il? C'est-à-dire bonjour, bonjour les enfants, socialisation, entrée en matière, politesse, qu'est-ce qu'on construit comme compétence? Est-ce qu'on attend uniquement bonjour maîtresse? Est-ce qu'on attend uniquement bonjour? C'est-à-dire est-ce qu'on attend quelque chose? Ou est-ce que d'emblée, l'enjeu c'est on regarde par ici? C'est-à-dire en fait, l'accueil c'est fini, le regroupement ça y est, donc on commence à bosser. Vous voyez, avec un petit flottement dans les enjeux qui sont engagés. Donc on relit, hein, vous voyez un peu, bonjour, bonjour, alors on rappelle les règles, ok. Trois niveaux de contraintes sont imposés à l'enseignante. Plus ou moins consciemment, plus ou moins réfléchi. Il y a des contraintes situationnelles, c'est le moment de la journée. Début de la journée, dans une classe de maternelle, rituel après l'accueil. Premier niveau de contraintes. Deuxième niveau, des contraintes vraiment discursives. Ces mots sont là pour signifier aux enfants qu'il faut se mettre au travail. Ils le savent très très bien et ils jouent avec. Ils savent très très bien que d'abord maîtresse, elle joue un peu de la guitare, ou elle met la musique, ou elle coupe la lumière, ou elle remet la lumière. Premier signe langagier, bon. Deuxième signe langagier, ils attendent qu'elle tape dans les mains. Bon. Troisième signe langagier, ils vont être attentifs à la prosodie et à l'intonation. Ah, ça commence à chauffer, peut-être serait-il temps de bouger. D'accord ? Et on voit bien, si vous compilez des moments de début de classe, vous les mettez les uns à côté des autres, on voit bien ces strates. Et on voit bien la connivence ou l'absence de connivence. Donc c'est un discours d'enrôlement, c'est construction de l'attention. Est-ce que ça fait parler ? Non. Vous voyez, je prends des exemples, on va dire zéro. Ça n'a pas à faire parler, puisque précisément au cœur du langage scolaire, du discours scolaire, il y a la question du silence. Il y a la question de l'écoute attentive, qu'il ne faut pas oublier. Hein. C'est-à-dire, certes, il y a des petits parleurs, et certes, on veut les faire parler, mais pour les faire parler, et pour faire parler les petits parleurs, encore faut-il avoir des temps de silence, l'installation du silence. Troisième niveau de contrainte, des contraintes formelles. Comment je vais le dire? Quelle manière de dire? Plus ou moins codifiée, hein, c'est-à-dire plus ou moins inscrite dans le répertoire des actions langagières de l'enseignante pour être vraiment entendue. Ouais, la maîtresse de responsable document, un peu plus loin quand on est parti en motricité, chef de file. Elle dit chef de file, le binôme tête de rang est venu s'installer. D'accord ? Ah, il y a les PES, ils sont tétanisés quand ils voient ça. Et on a beau être en mars, comment je fais un truc pareil, quoi. La maîtresse elle dit deux mots et il y a le rang qui s'installe. D'accord. Bon. Alors, est-ce que c'est après? Il y en a un qui dit « Ouais, ça fait un peu militaire. » Ah, voyons, qu'est-ce que vous mettez derrière le « ça fait un peu militaire » Dans les manières de dire, on rappelle, on regarde. Regardez, on rappelle. On rappelle égale, on se rappelle. Ou alors on va vraiment les rappeler. Vous voyez, invitation à la remémoration des règles de fonctionnement de la classe au moment du regroupement. Vous voyez comment le langage cognition-apprentissage, ici apprentissage sociaux, génère ou ne génère pas, hein, du côté des élèves, une réaction. D'accord ? Et regardez, on se tourne, acte de langage intéressant, pour dire, c'est à vous de vous regarder, de vous tourner vers moi, parce qu'on va commencer à travailler. S'ajoute à cela trois manières de dire. C'est des grosses synthèses. Hein. Nous passons notre temps, soit à être dans le dire que, c'est-à-dire à être dans le déclaratif, nous allons, vous allez, ce matin, hier nous avons, d'accord, on distribue du déclaratif, à être dans l'injonction, à dire de, et enfin à demander si. Voilà nos trois modalités de fonctionnement, qui engagent ou pas trois modalités de production du côté des élèves. Sachant en plus que ces trois modalités ont une fâcheuse tendance à s'interpénétrer. C'est-à-dire qu'il y a du déclaratif qui a fonction, qui a valeur d'injonction. Regardez, la maîtresse, elle dit « Alors, on rappelle les règles un petit peu, pour être sûr qu'on ne parle pas tous ensemble. Joséphine, on regarde par ici. » On voit bien que la deuxième partie de l'énoncé a une valeur injonctive beaucoup plus forte que la première. Mais même dans la première, dans sa dimension déclarative, se jouent des petites choses qui sont un appel, hein, plus ou moins appuyé, à on arrête de parler, on s'assied correctement et on se tourne. Subtilité. Hein, subtilité tout de même. Hein. Et vous voyez que s'il fallait se dire, mais finalement, que comprennent exactement les élèves de ce que la maîtresse est en train de leur dire, c'est pas aussi simple. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui peut les amener à comprendre vraiment? C'est les copains. Hein. Les copains se sont installés. On voit bien que d'un seul coup, le niveau de bruit diminue. Donc, ils ne sont pas dans la compréhension fine de l'énoncé produit par l'enseignante, mais bien dans un complexe d'éléments. Eux aussi, ils prennent des observables. Eux aussi, ils sont dans, vous voyez, le geste d'étude qui consiste à dire « j'ai des informations, y compris là, dans ce petit moment, qui me permettent de dire, si je me retourne à droite, à gauche, ah mince, tout le monde est assis, donc il faut que j'y aille. » D'accord, hein. Et on voit bien que des élèves en très grande difficulté, perdus un peu dans la classe, là j'en ai vu fonctionner là, à la fin du premier semestre, petit bonhomme un peu tétanisé par le groupe encore au mois de décembre, et qui du coup ne sait même pas où se placer, il erre dans la zone de regroupement, parce qu'on voit bien qu'il ne peut pas, il ne sait pas prendre les informations qui, normalement, doivent l'intimer, enfin lui dire, bon, allez, tu bouges là. Et donc, il faut que la maîtresse... Alors, d'ailleurs, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle prend une chaise, elle lui dit, tiens, tu pourrais t'asseoir là. C'est-à-dire, elle ne le met pas directement sur les bancs. Elle considère que peut-être, il y a une phase intermédiaire, donc elle sélectionne une chaise, il est assis à la chaise, il est à côté, mais il n'est pas contre, parce qu'elle a compris intuitivement que le contre, le rapport de force, parce que sur les bancs, c'est une mêlée de rugby, hein. Les bancs, c'est féroce, les bancs. Vous le savez. C'est du langage, mais au corps à corps. Hein, soit tu finis sur le tapis, soit tu as le droit de rester assis parce que tu occupes ton espace et tu le gardes. Regardez le dire deux, exemple très simple, dont Azedine est l'enseignant. Azedine, une roulade, et l'enseignant n'est pas contente. Dis-moi une phrase. Qu'est-ce qu'elle est en train de lui demander? Vous voyez l'injonction, là. C'est-à-dire, elle est en train de lui dire « je n'accepte pas l'énoncé tel que tu le produis », alors que l'enfant s'est contenté de répondre à une question qui, en termes d'oralité, permettait tout à fait de rester sur un groupe de mots. Et puis elle utilise le mot « phrase », alors qu'on est à l'oral, et qu'en bonne correction linguistique, il ne faudrait pas dire « phrase », mais « énoncé ». Réserve en phrase pour le domaine de l'écrit. D'accord? Bon. Fallait faire une roulade. Intéressant, hein? Oui, parce que il arrive à produire quand même un énoncé plus complet. Il oublie une partie. Hein, il est dans la construction verbe plus prédicat, là, justement. Bon. Mais il a réagi. C'est-à-dire, les habitudes se prennent petit à petit, au fur et à mesure que l'enseignant répète. Pour autant, est-ce que l'enfant a compris la nécessité de cette correction? Grande question. Si ce n'est pas ensuite, vous voyez, secondarisé précisément, c'est-à-dire rediscuter, pourquoi est-ce que je vous demande parfois deux? Alors bon, pas chez les petits et les moyens, on est d'accord. Mais je pense que les grands sont peut-être en mesure, s'il y a des petits bouts de film, là, regardez, je vous demande de recommencer. Pourquoi est-ce que je vous demande de recommencer? Vous voyez ce qu'on pourrait, le champ d'investigation. De dire et demander si l'interaction, on est en train de faire un album écho, donc il y a des photos, voilà, et donc il y a l'enfant en haut du toboggan. L'enseignant, oui, tu es en haut du toboggan, et comment tu as fait pour être en haut du toboggan? Hein, je suis monté sur les escaliers. D'accord? Voilà, et là, effectivement, il y a un accompagnement où le langage d'évocation est construit, adossé finalement à l'image, où l'image n'a pas un pouvoir de fascination ou de détournement aussi puissant que peuvent l'avoir les images d'album, hein, qui marquent toujours un écart par rapport au texte et qui permet justement de... Ce qu'il faudrait marquer ici, c'est le temps de latence entre la question posée, comment tu as fait pour être en haut du toboggan, donc c'est un dire deux et un demander si, hein, voyez. Je constate, et en même temps, je te demande d'aller un peu plus loin, le temps de latence qui est un temps de compréhension de la question et d'évocation de la situation, et de rétroaction en termes de compréhension, et enfin de construction de l'énoncé. Vous voyez l'extrême densité de la tâche qui est demandée aux élèves à ce moment-là. Et il n'est pas étonnant qu'il y ait des élèves qui bloquent, quoi, qui n'arrivent pas. Et du coup, on dit « ce sont des petits parleurs ». Ah, c'est pas un reproche. Hein. Ou alors « ils ne parlent pas ». Vous voyez qu'il n'y a pas que ça qui se joue à ce moment-là. Hein. Il faudrait être beaucoup plus exigeant pour pouvoir dire « bon, ok, à ce moment-là, dans cette situation-là, il ne peut pas répondre ». Ou « il ne me répond pas », ce qui n'est pas tout à fait pareil. Bon. On a fait un travail avec une collègue de l'école à côté de l'ESP sur bébé chouette. Bébé chouette, bon, on installe ça dans 3 classes, on fait tourner sur des modalités d'enseignement assez traditionnelles, lecture de magistrale de l'enseignant, puis des questions, puis on relit et puis on repose quelques questions. L'impression donnée était compréhension assez poussée de l'album. Sur le modèle Brigodiot, hein, d'ailleurs, puisqu'on avait pris au départ les travaux de Mireille, y compris sur cet album. Bien. Après, on décide de faire des entretiens individuels, élève par élève, filmés, et là, d'un coup, patatras, c'est-à-dire des écarts énormes de compréhension, difficulté à retrouver les éléments constitutifs du récit. D'ailleurs, y a-t-il vraiment un récit ? C'est la question que pose entre autres Bébé Chouette. Hein. Elle est où l'action ? C'est une action fantasmée. Que fait maman quand elle n'est pas là, quand elle a quitté le nid ? Parce que sinon, il ne se passe rien dans le nid. On est d'accord ? Et puis surtout, même en remettant l'album et en leur donnant la possibilité de se servir des images pour construire de l'énoncé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Inversement, on met en place là, depuis 2 mois... C'est Valérie Plière, la directrice de l'école maternelle, qui est à côté. Discussion en visée philosophique. D'accord ? En maternelle. Qu'est-ce qu'une grande personne ? Et on recommence sur le même protocole. C'est-à-dire, premier temps, le grand groupe. Deuxième temps, les élèves un par un. Et là, on s'aperçoit que le rendement est bien supérieur. C'est-à-dire que lorsqu'ils se retrouvent tout seuls, ils se souviennent, alors, mieux... Il faudrait mettre des guillemets, mais de ce qui s'est passé, de la manière dont on a parlé, des éléments de définition qui ont été donnés. Vous voyez, donc ça montre bien que les supports, les situations, les protocoles d'observation et les observables ne permettent pas de dire à coup sûr, ça va marcher, ça va pas marcher, c'est mieux que, mieux vaut faire comme ci ou comme ça.